Il est 8h. Voyage, voyage. À la une des vacances très françaises. Les agences de voyage ont même dû adapter leurs offres à une demande de tourisme centrée sur notre pays. Ceux qui ont choisi de partir à l'étranger resteront principalement en Europe. Nous verrons d'ailleurs comment chaque pays applique à sa façon le pass sanitaire en vigueur dès demain. Une gigantesque fuite de données du réseau social LinkedIn. 9 utilisateurs sur 10 risquent de voir leurs adresses, numéros de téléphone ou encore leur fourchette de salaire récupérées à des fins malveillantes. Et puis, il n'aura que quelques jours pour se reposer. Didier Deschamps a rendez-vous avec son patron Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Foot le dit sur Europe 1. Il est persuadé de la motivation extrême de son sélectionneur. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité ce matin, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Et des questions, vous allez le voir, concrètes sur l'inflation, l'épargne, le livret A et notre consommation. Soyez à l'écoute, ça vous concerne tous. Rendez-vous 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Je sais qu'en ce 30 juin, vous vous dites qu'on arrive au bout, que l'année se termine, que les vacances sont à portée de main. Alors on entendait des earless, hein, pour l'espace inouï de l'amour, on verra au retour en termes de cartes postales. En tout cas, celles-ci ne seront pas tamponnées des îles Fidji ou du Fujiyama, mais plus proches que cela.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Les agences de voyage le disent, l'activité redémarre. Après une baisse de 85% sur le début de l'année, les réservations ont dépassé le niveau de 2019 ce mois-ci, et pour l'essentiel, c'est en France.
Effectivement, la France cette année, c'est 50% des réservations dans les agences de voyage, contre un quart avant la crise du Covid. Certaines ont même dû complètement revoir leur catalogue. C'est le cas d'Asia, par exemple, spécialisée comme son nom l'indique dans les pays asiatiques. L'activité du PDG Guillaume Linton a été stoppée net par le Covid.
On a dû se réinventer, donc on a trouvé des partenaires pour essayer de proposer en France des voyages à l'image de ce qu'on faisait sur l'Asie, c'est-à-dire soit des voyages totalement personnalisés, itinérants à la découverte de nos belles régions, ou des rencontres de personnages du cru pour leur faire redécouvrir les Bastides, par exemple, d'Aix-en-Provence, la Normandie de Guillaume le Conquérant aux impressionnistes, la Provence médiévale et romaine. Ça a été un travail qui nous a pris quasiment 6 semaines pour fabriquer cette 50aine de programmes itinérants.
Deuxième destination préférée des Français cet été, la Grèce, suivie de l'Espagne, Baléares et Canaries compris. Il y a en revanche 2 fois moins de départs qu'avant la crise à destination de la Tunisie. Et puis les croisières s'en sortent très bien avec beaucoup de réservations de dernière minute, à tel point qu'il n'y a pas suffisamment de vols réguliers pour acheminer les candidats au départ. Certaines compagnies comme MSC ont même dû affréter leurs propres avions privés.
Merci Carole Ferry. Vous parlez de voyage en Europe. Pour cela, dès demain, 1er juillet, le pass sanitaire sera en vigueur sur papier ou dans l'appli Tous Anti-Covid, avec à l'intérieur la preuve qu'on est vacciné ou bien testé négatif ou encore qu'on a eu le Covid récemment.
Isabelle Horry, bonjour.
Bonjour.
En ligne de Bruxelles pour Europe 1, même avec ce pass sanitaire, attention, chaque pays européen reste libre de fixer ses conditions d'entrée.
Oui, chaque pays est libre d'accepter ou pas les éléments contenus dans le pass sanitaire. Chaque ministre de la Santé décide souverainement. Exemple en France, si vous avez eu le Covid, une seule dose de vaccin suffit. Eh bien, ça ne passera pas auprès de certains de nos voisins. Pour aller en Belgique, vous devrez faire un test PCR. La Belgique, qui, comme l'Irlande, n'accepte pas les tests antigéniques pour les visiteurs, alors que la Commission européenne les conseille. Au nord, la Finlande, elle, n'accepte pour le moment que les touristes qui ont eu le Covid ou qui sont complètement vaccinés. Bref, c'est toujours une mosaïque. Bruxelles a d'ailleurs écrit hier aux 27 États membres pour leur rappeler leur engagement d'harmonisation. Les acteurs du secteur aérien critiquent des stratégies disparates dans la mise en œuvre du certificat. Ils en ont compté au moins 10. Donc il faut absolument vérifier avant de partir ce que demande votre pays de destination, sachant en plus que ça peut vite changer. Rien n'est gravé dans le marbre à cause de la propagation du variant Delta. Exemple, l'Allemagne vient tout juste d'imposer une quarantaine de 2 semaines à ses résidents qui reviennent du Portugal.
Isabelle Horry sur Europe 1 depuis Bruxelles.
Et bien plus globalement, si on revient sur 15 ou 16 mois d'effondrement du tourisme dans le monde, une étude chiffre à 4000 milliards de dollars, même en euros ça fait beaucoup, 3350 milliards, la perte pour le PIB, selon une étude de l'ONU, la reprise dépendra grandement de la vaccination. D'ailleurs, 2 caps symboliques ont été franchis hier en France, 50% de la population totale, enfants et adultes, a reçu au moins une dose, et un tiers des Français totalement vaccinés.
8h05 sur Europe 1, la politique, avec les suites des élections départementales et régionales, le match n'est peut-être pas terminé.
Oui, en tout cas, un candidat PS dans le Finistère, Marc Labbé, qui dépose un recours devant le tribunal administratif administratif. Dans son canton, à Brest, il a été battu pour 5 voix. Un écart de moins de 0,1% qu'il conduit à tenter sa chance, car l'enjeu, s'il gagnait finalement, est de refaire basculer au niveau de tout le département le résultat à gauche. Mais les suites de ces élections, c'est aussi un débat enflammé à l'Assemblée nationale hier. Question, dans les bureaux de vote, une femme qui est assesseur peut-elle porter le voile ?
C'est l'ancien socialiste François Pupponi, désormais apparenté Modem, qui a plaidé pour la neutralité religieuse. Réponse de la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa.
Je vous appelle, mesdames et messieurs les députés, à ne pas alimenter une spirale de stigmatisation et de haine qui peut être alimentée par certains, en particulier dans les rangs de l'extrême droite et dans les rangs de la droite extrême. Car je vous pose une question ici, de bonne foi, de quoi a-t-on peur ? Nous parlons d'une image qui a circulé avec M. Jordan Bardella. Est-ce que M. Jordan Bardella s'est senti menacé quand il a signé la liste d'émargement de son bureau de vote devant une assesseur ? Est-ce qu'il a eu le sentiment qu'il votait sous la contrainte de cette femme ? Ou bien est-ce une polémique qu'il a souhaité lancer délibérément sur les réseaux sociaux pour faire oublier le net recul de l'extrême droite lors de ces élections ? La question peut se poser.
Alors au départ, la session portait sur le projet de loi contre le séparatisme. Face à Marlène Schiappa, le député Les Républicains Éric Ciotti a réagi.
Ce texte est un filet d'eau tiède au final. Vous refusez de vous attaquer au vrai problème. Il n'y a pas de problème de voile à l'école pour les accompagnants scolaires. Il n'y a pas de problème de prosélytisme dans les piscines, comme c'est le cas à Grenoble. Il n'y a pas de problème dans les bureaux de vote. Circulez, il n'y a rien à voir. On change rien, on bouge rien et on se donne rendez-vous à la prochaine attaque terroriste.
Éric Ciotti, extrait de ce débat qui a occupé l'hémicycle au total pendant environ 2 heures. L'amendement proposé par le Modem sur les assesseurs a finalement été rejeté.
Grosse frayeur hier en fin d'après-midi près de Rouen. Des riverains ont aperçu un homme équipé d'un fusil d'assaut sur la zone d'activité de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était en fait une arme factice et un exercice non déclaré aux autorités. 130 policiers, pompiers et soignants ont été mobilisés jusqu'à une levée de doute, comme on dit dans le jargon de la BRI qui était sur place. C'est sur cette commune de Saint-Étienne-du-Rouvray qu'un prêtre avait été assassiné en juillet 2016. On l'appelle le réseau social professionnel, car plus que des photos de vacances ou des déclarations d'amitié, c'est son CV que l'on publie sur LinkedIn, une plateforme où l'on retrouve des collègues et des potentiels recruteurs, d'où la portée très sensible des informations. 700 millions parmi les 750 millions de comptes de LinkedIn ont subi une fuite de données. Elles peuvent désormais être achetées par les plus offrants des cybercriminels.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste numérique d'Europe 1. On va le dire clairement, si on a un compte LinkedIn, on peut partir du principe qu'on est touché. Que doit-on faire ?
Alors, dans ce cas précis, le principal risque, c'est le phishing, des mails frauduleux visant à vous extirper vos coordonnées bancaires. Les données issues de LinkedIn étant très spécifiques, les pirates peuvent vous cibler en imitant des mails qui vous parlent, par exemple en copiant des entreprises où vous avez travaillé. Avec les adresses mails professionnelles récoltées, ils peuvent aussi essayer d'infiltrer des entreprises stratégiques. Plus grave encore, il y a le risque d'usurpation d'identité. Avec toutes les informations obtenues, les pirates peuvent créer de toutes pièces un faux profil similaire au vôtre. Alors, dans ce genre de fuite, malheureusement, changer le mot de passe de votre compte LinkedIn ne sert à rien. Les pirates n'y ont pas accès. La seule chose à faire, c'est de redoubler de vigilance en lisant vos mails. C'est par là que les hackers pourraient tenter une attaque. Donc, vérifiez toujours l'adresse mail de l'expéditeur. Ne cliquez pas sur des liens douteux et n'entrez vos coordonnées bancaires que sur un site dont l'adresse commence par HTTPS.
Voilà, c'est le S qui est important. HTTPS. Merci Clément Le Saffre. Encore un record au Canada. 49,6 degrés enregistré il y a quelques heures à Lytton, non loin de Vancouver, dans l'ouest du pays. Et on parle bien de degrés Celsius, 49,6 degrés. Plusieurs dizaines de morts subites sont recensées au Canada, probablement dues à la chaleur. En France, le tout dernier rapport du Haut Conseil pour le climat dévoilé hier est mitigé. La France est en retard sur ses réductions de gaz à effet de serre.
C'est une décision très attendue par les victimes de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Souvenez-vous de ce panache de fumée noire et de la forte odeur pendant des semaines, il y a un an et demi.
Oui, aujourd'hui, la cour d'appel de Paris doit se prononcer sur un recours du groupe Lubrizol. Il s'agit en fait d'annuler la procédure et donc, Justin Morin, d'éviter un procès.
Oui, ce serait un déni de justice, selon le président de la métropole rouennaise, un scandale national pour l'Union des victimes de Lubrizol. Personne ne veut y croire, mais de son côté, Lubrizol dit simplement vouloir faire valoir ses droits. Ses avocats dénoncent certains actes de la procédure, notamment ceux réalisés par la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, juste après l'incendie. Selon la société, des non-conformités auraient été ajoutées dans un second temps, sous la pression médiatique. Le parquet général s'est opposé à ce recours, mais ce sera au juge de décider. C'est une étape cruciale, selon Christophe Olvier, de l'Union des victimes de Lubrizol.
Concrètement, aujourd'hui, se décide le sort du procès. À l'heure actuelle, les particuliers n'ont pas été indemnisés de quoi que ce soit. Certains agriculteurs n'ont pas eu leur compte non plus par rapport aux pertes qu'ils ont pu enregistrer. Si Lubrizol n'avait pas allé en justice, ça surprendrait non seulement les Sénomarins, les victimes, mais également tous les Français.
Après l'incendie, un épais nuage noir s'était déplacé au nord-est de la ville sur plusieurs dizaines de kilomètres, parsemant les sols de résidus noirs et gras. En tout, près de 500 plaintes ont été déposées.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
On ne s'en est toujours pas remis. L'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro seulement. Et pourtant, il faut bien aller de l'avant. Objectif Coupe du Monde, une Coupe du Monde l'année prochaine.
Oui, mais avec qui ? Avec qui à la tête de la sélection ? Certains posent la question du maintien de Didier Deschamps. Un homme à la réponse, c'est le président de la Fédération Française de Foot. Et vous avez pu le joindre, Cyril de la Morinerie.
Oui, Noël Le Graët a confirmé à Europe 1 qu'il avait échangé hier en fin d'après-midi avec Didier Deschamps. Ils se sont parlé au téléphone pendant 2 minutes et ont convenu de se revoir d'ici une dizaine de jours maximum. Le président de la fédération veut avoir une discussion sérieuse avec son sélectionneur. D'abord, pour comprendre les raisons de cet échec, mais aussi pour savoir si Didier Deschamps souhaite vraiment poursuivre sa mission, même si sur ce point, Noël Le Graët n'a pas beaucoup de doutes.
J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir. On est suffisamment proches l'un de l'autre pour passer le temps qui convient pour discuter. Donc on ne décide pas comme ça. Il faut aussi qu'il lui ait très envie, parce que c'est des métiers de passion. Il faut être très à l'affût de ce qui se passe un peu partout et avoir une motivation extrême, et je suis persuadé qu'il l'a.
Voilà pour le discours officiel. En coulisses, en revanche, il se murmure que Noël Le Graët serait très remonté. Le président ne comprend pas les errements tactiques de Didier Deschamps et sa gestion du groupe. Mais la tendance reste à un maintien du sélectionneur. Noël Le Graët affirme à Europe 1 qu'il n'a pas de plan B. Mais attention, le président de la fédération ne cache pas non plus son admiration pour Zinedine Zidane et affirme même qui deviendra un jour le patron des Bleus.
Cyril de la Morinerie.
Voilà qui promet de beaux débats dans la semaine à venir.
Oui, en même temps, qui n'admire pas Zidane. Bref, pour ce qui est du cyclisme, 5e étape du Tour de France aujourd'hui en Mayenne, entre Changé et Laval, c'est un contre-la-montre de 27 km, ce qui signifie que le classement général, toujours occupé à la tête maillot jaune par Mathieu Van Der Poel, ce classement peut changer.
Merci beaucoup François Geffrier. Le journal de l'Euro, hein, puisqu'on parlait des Bleus tout de même, le journal de l'Euro, la qualification de l'Angleterre notamment, c'est à 8h30 tout à l'heure. Très bon réveil à tous. Il est 8h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, l'invité politique de la matinale au micro de Sonia Mabrouk, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
Bienvenue à vous et bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Sonia Mabrouk.
On va évoquer ce matin les sujets de croissance, de dette, d'épargne, mais tout d'abord, une grande étude que vous nous livrez en exclusivité ce matin sur Europe 1. La Banque de France a donné la parole aux Français sur l'inflation, la politique monétaire et ce qu'ils en attendent. D'abord, est-ce que ça intéresse les Français ? Est-ce que ce sont des questions qui les intéressent ?
Alors effectivement, nous avons fait une opération sans précédent, qui était la Banque de France à votre écoute. Nous l'avons d'abord fait pour une raison européenne, parce que ça fait partie de la revue de stratégie lancée par Christine Lagarde dans tous les pays de la zone euro. Mais on a insisté particulièrement en France, parce que la Banque de France est au service de tous les Français. Elle appartient à tous les Français d'ailleurs, et nous leur devons la clarté. Alors les Français, il y a un paradoxe, hein. Les Français sont attachés à leur monnaie, à l'euro. Quand vous dites euro, il y a plus de 70% des Français qui le soutiennent. Mais effectivement, ils ne connaissent pas la politique monétaire qui est le moyen de cette monnaie. Et c'est une des premières choses qu'ils nous ont dites, à plus de la moitié, c'est nous, on ne connaît pas du tout la politique monétaire. Entre nous, Sonia Mabrouk, c'est pas très surprenant, je le vois aussi avec mes proches. Moi, ça m'arrive d'essayer d'expliquer à mes enfants aussi ce que je fais. Et ma fille, l'autre jour, mes enfants sont adultes, hein, et ma fille, l'autre jour, m'a dit très gentiment « Papa, c'est intéressant ton truc, mais la prochaine fois, fait encore plus simple. »
Alors,
voilà. Donc on a essayé de faire encore
plus simple.
Donc devoir
de clarté de pédagogie,
voilà,
ce matin.
Devoir de clarté. Bon. Et en plus, si notre politique monétaire est mieux comprise, elle sera plus efficace. Hein. Donc ça, je crois que c'est l'intérêt de tous. Mais ils nous ont dit en même temps que ça les intéressait parce qu'il y a eu une grande participation, ça a été une de nos bonnes surprises, aux événements que nous organisions.
Alors sur le fond des sujets, François Villeroy de Gallo, vous avez notamment interrogé ou donné la parole aux Français sur l'inflation, qui est, rappelons-le, votre cœur de métier à la Banque de France. Il ressort qu'on la surestime, cette inflation. Ça paraît presque naturel.
Alors, effectivement, nous avons interrogé les Français sur ce qu'ils pensaient de l'inflation de l'année dernière. dernière et à 43%, ils nous ont dit que l'inflation avait été supérieure à 2%. La réalité des chiffres, ce n'est pas nous qui la mesurons, c'était 0,5%. Alors c'est effectivement assez naturel parce que chacun de nous est plus sensible dans sa vie aux prix qui montent, on les retient plus qu'aux prix qui baissent. C'est naturel. Pour autant, c'est pas là-dessus, les Français ne voient pas tout à fait juste, mais ils nous ont dit deux choses, je crois, très intéressantes. La première, c'est attention au coût du logement. Nous avons l'impression, nous, Français, que le coût du logement n'est pas assez pris en compte.
Est-ce que ce n'est qu'une impression ?
Alors, nous allons voir comment nous pouvons corriger cela. Et puis, alors, il y a une deuxième chose, c'est qu'autant les Français, comme d'ailleurs les Allemands, comme à peu près tous les pays, se trompent en général sur le niveau exact de l'inflation. Par contre, ils disent des choses très justes sur l'évolution. Est-ce que l'inflation va monter ou baisser ?
Mais j'allais vous le dire. Est-ce qu'ils n'anticipent pas, monsieur le gouverneur de la Banque de France ?
Et donc là, nous allons changer quelque chose. Ça, je l'annonce ce matin. Nous allons mesurer ce qu'on appelle les anticipations d'inflation, c'est-à-dire la façon dont les PME ou dont les ménages français voient l'évolution de l'inflation dans les mois qui viennent. Et ça, c'est très important sur la politique monétaire, parce que ça va guider un peu leur comportement sur les prix et les salaires.
C'est-à-dire comment nous, citoyens, nous percevons cette inflation. Par exemple, moi, depuis notre poste d'observation, depuis le mien, je peux vous dire que je crains des tensions en ce moment sur les délais de livraison et les prix des matières premières qui font craindre une inflation non maîtrisée. Est-ce que j'ai la bonne perception des choses ?
Alors, vous avez raison, il y a aujourd'hui des tensions sur les matières premières, sur certains composants. On a beaucoup parlé des semi-conducteurs, on a parlé du bois dans le bâtiment. Notre analyse, c'est que ces tensions devraient quand même être temporaires. Au fond, c'est une maladie de la meilleure santé économique et de la reprise économique. Et donc, l'inflation devrait monter un peu en 2021, mais redescendre ensuite en 2022 et 2023. Notre prévision est à 1,4% pour l'ensemble de la zone euro.
Alors, autre question, François Villeroy de Gallo, de cette grande étude qu'a menée la Banque de France auprès vraiment de nombreux, de très nombreux Français, et y compris les plus jeunes d'entre nous, elle concerne la politique monétaire. Mais très sincèrement, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, et on parle également à votre fille qui vous a posé la question, quelles implications concrètes dans nos vies à nous, dans nos vies quotidiennes ?
Alors une indication d'abord sur le succès de ces rencontres, qui nous a surpris nous-mêmes, je dois dire. C'était des rencontres tout en ligne pour cause de Covid, mais nous avons fait une rencontre nationale. Il y a eu plus de 100 000 participants en direct ou en replay. Et ensuite, nous avons fait une rencontre par région. Et il y a eu en moyenne 1 000 participants à chaque fois. Nous avons recueilli plus de 600 questions. Donc c'était vraiment très riche. Ce que les Français nous disent, c'est expliquez-nous la politique monétaire, parce que ça nous intéresse, c'est important, particulièrement en période de crise. Mais avant de nous expliquer, écoutez-nous. Parce que faites ça à partir de nos problèmes concrets, c'est-à-dire l'endettement, c'est-à-dire l'immobilier, c'est-à-dire l'épargne, c'est-à-dire l'emploi. Bon. Et donc, nous allons chaque année, ça aussi je veux le dire ce matin, reproduire une rencontre nationale de la politique monétaire, et puis nous allons rendre tous nos documents beaucoup plus accessibles à partir des questions quotidiennes des Français. Nous avions déjà fait beaucoup de progrès, y compris en ouvrant la Cité de l'économie il y a 2 ans, mais on va amplifier les choses. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont intéressés à aller sur le site de la Banque de France, la Banque de France à votre écoute, ça reste aujourd'hui totalement disponible.
Que pouvez-vous faire sur certains sujets ? Par exemple, il y a des questions importantes aux yeux des Français qui sont ressorties de cette étude, comme le climat, la dette publique, la lutte contre les inégalités, mais la Banque de France ne peut rien sur ces sujets. Alors, vous n'êtes pas en première ligne sur ces sujets.
Nous avons analysé les 600 questions que nous ont posées les Français. Notre première responsabilité, vous l'avez dit, c'est la stabilité des prix, la maîtrise de l'inflation. Mais ils nous ont posé d'autres questions sur lesquelles nous ne sommes pas les premiers responsables, mais et nous pouvons aider. C'est le climat, c'est la dette publique, qui est une question qui est revenue souvent, c'est les inégalités et l'emploi. Et là, nous allons voir dans cette fameuse revue de stratégie de la Banque Centrale Européenne comment nous pouvons contribuer, mais sans promettre plus que nous ne pouvons faire, parce que ça dépend d'abord d'autres politiques. Pour l'exemple du climat, c'est un juste prix du carbone.
Et l'autre sujet de préoccupation évidemment majeur des Français, François Villeroy de Gallo, et du reste du monde d'ailleurs, ce sont les variants, et en particulier le variant Delta. Alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a maintenu la prévision de croissance à 5%, en deçà de celle de la Banque de France, qui, on en avait parlé ici même, à 5,5%. Est-ce que vous-même, vous maintenez malgré tout la vôtre ?
Alors, notre prévision économique est faite en toute indépendance du gouvernement, comme tout ce que nous faisons. Elle est même à 5,75 cette année. Alors, sur cette prévision, nous sommes vigilants, mais nous restons confiants. Je voudrais juste expliquer pourquoi. Nous sommes vigilants, bien sûr, parce que nous avons dit depuis le début que la situation sanitaire était le premier aléa. Et donc, la vaccination, c'est le moyen non seulement de protéger nos santé, mais aussi de protéger nos emplois et l'activité. Hein. Mais nous sommes confiants parce que quand on regarde depuis 15 mois, chacune des vagues de restrictions sanitaires a eu des effets économiques de plus en plus limités, en fait. Et donc, notre prévision de 5 3/4 ne devrait pas être significativement affectée, même s'il devait y avoir un nouveau train de restrictions à l'avenir.
C'est important, hein, parce que le gouverneur de la Banque de France qui dit ce matin qu'il y a une confiance quant à la résistance de l'économie française, malgré l'inquiétude liée aux variants, malgré l'incertitude sur la rentrée, vous envoyez un signal très positif également.
Oui, j'ai parlé en même temps de vigilance et je crois de la nécessité absolue de la vaccination. La vaccination, c'est aussi la meilleure protection contre ce variant Delta et la meilleure protection de nos emplois.
Mais alors pourquoi le gouvernement est plus pessimiste ? Il est dans son rôle avec une croissance en deçà de... Enfin, une prévision en deçà de la vôtre ?
Écoutez, nous avions cet écart depuis plusieurs semaines, et moi je n'ai pas à commenter à la place du ministre, mais je dis simplement que notre prévision de 5 3/4 est raisonnable.
Est-ce que nous sommes proches, François Villeroy de Gallo, malgré tout, sur le plan économique, d'une sortie de crise, d'une lueur au bout du tunnel ? Et si oui, quels sont les indicateurs, les secteurs en forme qui vous permettent de le dire ?
Nous faisons chaque mois une enquête de conjoncture auprès de plus de 8000 entreprises. Nous avons vu au mois de juin que l'activité devrait revenir à 3% seulement de pertes par rapport au niveau pré-Covid. Et donc, quand nous prolongeons la tendance, on devrait avoir retrouvé le niveau d'avant la pandémie, début 2022, un peu plus tôt que prévu. Tout ce que nous voyons depuis sur la consommation des ménages, sur l'investissement des entreprises, va dans ce sens. Bien sûr, il y a des variations entre secteurs. Hein.
Quels sont les secteurs les plus en...
L'hébergement, restauration est en train de regagner vite le terrain, mais c'est lui qui avait malheureusement le plus souffert.
Et l'épargne des ménages, donc c'est un potentiel, un réservoir de croissance, si...
Très important.
Si la confiance est maintenue, là.
Absolument.
Encore, tout se tient.
Oui. L'épargne des ménages supplémentaire du Covid, parce qu'en gros, en moyenne, le revenu a été maintenu et la consommation, évidemment, a souffert des restrictions. La différence entre les deux, c'est cette épargne Covid supplémentaire que nous estimons déjà à 142 milliards d'euros à la fin du mois de mars dernier, peut-être 180.
Qu'est-ce qu'elle attire comme convoitise, cette épargne ?
Peut-être 180 à la fin de cette année. Ah, oui. Alors, cette épargne, elle sert déjà à l'activité économique.
Oui,
hein,
bon,
elle est sur des dépôts bancaires.
Certains aimeraient qu'elle serve plus. Hein.
Qui en même temps finance les prêts. Mais ce que nous prévoyons, c'est qu'elle sera utilisée, consommée très progressivement à partir de l'année prochaine. Le rythme de consommation dépendra, c'est vrai, de la confiance des ménages. Et notamment du fait qu'on sorte complètement de cette crise sanitaire.
Et avec un événement, si je puis dire aujourd'hui, c'est le coup d'envoi des soldes. On verra si cette consommation se maintient durablement. Au niveau des entreprises, François Villeroy de Gallo, des PME, TPME, leur endettement a progressé. Cependant, l'exécutif n'est pas inquiet quant à une potentielle vague de faillite. Vous êtes du même avis ?
Alors là aussi, nous sommes attentifs. C'est vrai que l'endettement des entreprises a beaucoup augmenté, d'à peu près 13%. Ça, c'est le succès des PGE, hein, notamment en France. Mais en face de cet endettement, il y a beaucoup de trésorerie. Et ça, ça a été une bonne nouvelle de la crise. L'amortisseur public a marché. La trésorerie a augmenté presque autant que la dette. Donc, quand vous regardez la dette nette des dépôts et de la trésorerie, elle a pratiquement pas bougé. Pour autant, on va regarder entreprise par entreprise. En particulier, nous focalisons sur les entreprises dont la dette a augmenté et la trésorerie a diminué.
Vous ferez des efforts.
Et là, on sera attentif. Ça représente à peu près 6 à 7% des entreprises, un peu plus dans l'hébergement restauration, sur lequel on va être particulièrement présent.
Monsieur le gouverneur de la Banque de France, quelle est la réforme la plus urgente à vos yeux ? Une réforme des retraites ou bien un vrai plan de réduction des dépenses publiques ?
Alors, ce n'est pas à la Banque de France de faire l'agenda des réformes. Je crois que la France a dépensé sans compter pendant la crise Covid, et il le fallait. Au fur et à mesure qu'on sort de la crise Covid, il faut retrouver la maîtrise de nos dépenses publiques. De ce point de vue-là, les deux réformes que vous évoquez sont bienvenues. Ce n'est pas à moi d'en choisir
non, là,
le calendrier et les modalités.
Pas, monsieur
Mais je vais peut-être
Gallo.
Vous surprendre, Sonia Mabrouk. Je vais ajouter une troisième réforme que je crois, elle, extrêmement urgente. C'est tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage, la bataille des compétences. Parce que la première première menace sur la reprise aujourd'hui, c'est les difficultés de recrutement des entreprises. Ça, c'est le problème de l'économie française depuis des années. Nous le voyons revenir trop vite.
Mais vous êtes favorable à ce que l'âge légal de départ à la retraite soit repoussé à 64 ans.
Non, j'ai pas. Heureusement, ça, c'est ça relève du débat démocratique. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. C'est un choix du président de la République, du gouvernement, du Parlement. La Banque de France, elle est en charge de la stabilité des prix et de la politique monétaire.
Mais une volonté réformatrice serait une bonne chose sur le plan économique ?
Ah, pour dire un mot de la dette publique dont vous parliez, je crois que si nous voulons nous désendetter une fois sortis de la crise, il faudra ajouter trois ingrédients. Le temps, il faudra 10 ans. La croissance, ça veut dire plus de réformes pour avoir la croissance la plus forte. Et puis une meilleure maîtrise des dépenses publiques.
On va conclure. Une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous nous conseillez des investissements sur les crypto-monnaies ?
Non.
C'est pas votre rôle de nous conseiller.
D'abord, c'est pas mon rôle. Ensuite, c'est pas des crypto-monnaies, parce que si vous prenez le Bitcoin, une monnaie, c'est quoi ? Sa valeur est stable et elle est acceptée comme moyen de paiement. Il n'y a pas plus instable que le Bitcoin. Et donc, il va falloir le réglementer plus strictement. Les États-Unis le font. J'ai dit hier que l'Union européenne devait le faire vite. Par contre, il faut accepter l'innovation. Et donc, la Banque Centrale Européenne étudie sérieusement un euro numérique qui pourrait servir aussi pour les particuliers. Nous allons décider en juillet si nous lançons un prototype. Et ensuite, à horizon de quelques années, ça pourrait être un e-euro à la fois pour les particuliers, pour les entreprises, pour les institutions financières. Ça pose beaucoup de questions, mais ça peut être la logique de l'innovation d'avoir un euro numérique de banque centrale.
Beaucoup de questions, mais un grand défi, l'e-euro. Et vous avez entendu Mathieu, le Bitcoin, attention, avec prudence, il faut y aller pour les investissements. Merci. François Villeroy de Gallo, bonne journée à vous.
Vous n'en avez pas, vous, François Villeroy de Gallo, des bitcoins ?
Il se trouve que je n'en ai pas, mais je crois que c'est réservé surtout à des investisseurs extrêmement avisés, prêts à prendre des risques. Si je peux ajouter une phrase, si un jour un conseiller vous dit « j'ai un produit d'épargne merveilleux qui ne présente aucun risque et qui rapporte beaucoup », fuyez. Ce conseiller est soit un escroc, soit un incompétent. C'est le meilleur conseil que je puisse donner
à
votre micro.
Un bon entendeur, merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'info, la météo et le journal de l'euro. Celui de foot, pas le e-euro. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Marion Calais.
Plus de jauge en intérieur dans les bars, les restaurants, les musées ou les magasins. Dernière étape du déconfinement ce mercredi qui tombe à point nommé pour les commerçants qui lancent aujourd'hui les soldes pour 4 semaines. À Lille, en revanche, déception. Pas de braderie en septembre prochain. La mairie pointe notamment les incertitudes liées à la campagne de vaccination et à l'arrivée des variants du Covid. Les heures difficiles des anciens à Wimbledon, blessés à la jambe droite. Serena Williams a quitté le court en larmes hier après même pas un set. De son côté, Roger Federer, en difficulté, s'est qualifié à la faveur de l'abandon de son adversaire, le français Adrian Manarino, dans le 4e set.
Merci Marion Calais. La météo, Laurent Cabrol.
Il pleut sur une petite moitié nord. Enfin, en fait, les pluies se situent sur le nord-est de la France, mais la grisaille est sur pratiquement la moitié nord de la France. Et puis dans le sud, bien du soleil, c'est-à-dire dans tout le sud-ouest, sur la vallée du Rhône, dans les Alpes et le bassin méditerranéen, nous aurons là, dans toutes ces contrées, du soleil partout ailleurs. Donc c'est un temps de grisaille avec des températures qui ne changent pas. Voilà, résumé la météo du jour.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. A tout de suite pour le journal de l'Euro sur Europe 1. Le journal de l'Euro, c'est avec vous Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Bonjour Jean-François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est incroyable, il est en studio avec nous. Je pars au terminal 2 de Roissy. Là, vous avez atterri de Bucarest hier.
Entre deux avions.
Ouais. Et vous repartez demain, évidemment, pour couvrir l'Euro de football. Alors, les Bleus sont en vacances. Après leur élimination face à la Suisse, c'est maintenant l'heure des comptes. Ou peut-être des règlements de compte ?
Oui, alors comme souvent dans ces circonstances, les langues se délient. Certaines familles de joueurs rapportent des tensions en tribune, notamment entre la mère d'Adrien Rabiot et les proches de Paul Pogba et de Kylian Mbappé. Voilà, tension aussi sur le terrain. On vous parlait hier de l'altercation entre Kingsley Coman et le staff médical des Bleus. Eh bien, Didier Deschamps et Paul Pogba, toujours lui, ont également eu un échange assez viril, on va dire, sur le terrain. Même chose pour certains joueurs entre eux. Voilà, autant de symboles de l'atmosphère pesante qui régnait ces derniers jours autour de l'équipe de France durant cet Euro. Un Euro marqué, évidemment, pour les Bleus, par la chaleur et une bulle sanitaire étouffante. L'unité de façade portait bien son nom.
L'heure des comptes de la Fédération Française de Football également, ils ne sont pas bons.
Oui, l'élimination en huitième de finale coûte cher à la Fédération, plusieurs millions d'euros, parce que vous le savez, dans ces tournois, plus loin on va, plus on touche d'argent. Et quand on sait que pour la première fois depuis longtemps, la Fédération est déficitaire, qu'elle a engagé un plan de départ pour 25 personnes, eh bien cette contre-performance arrive au pire moment. Reste maintenant à savoir si les joueurs accepteront de renoncer à tout ou partie de leur prime liée à la compétition pour éponger ces lourdes pertes.
Parlons maintenant
de l'avenir de Didier Deschamps.
Un avenir forcément en question après 9 ans de mandat. L'objectif, c'était le dernier carré, il n'est pas atteint. Le contrat de Didier Deschamps expire l'an prochain après la Coupe du Monde au Qatar. Va-t-il rester ? Interview exclusive Europe 1 de Cyril de la Morinerie avec Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football. Écoutez-le, il est plutôt optimiste.
Je dis rapidement qu'il fallait qu'on se rencontre, c'est logique. Mais je dis par contre, prenez quelques jours là de repos, moi aussi, et puis on va sereinement discuter dans les 8 jours qui viennent, dans les 10 jours.
Est-ce que, à votre avis, il va rester en poste ?
J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir. Parce qu'à présent, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On a raté cette compétition, c'est certain, parce qu'on avait quand même des objectifs assez élevés. On est suffisamment proches l'un de l'autre pour passer le temps qui convient pour discuter. Il faut aussi qu'il lui ait très envie, parce que c'est des métiers de passion. Il va avoir une motivation extrême et je suis persuadé qu'il l'a.
Voilà, il est assez affirmatif, Noël Le Graët. Interview à retrouver en intégralité sur Europe1.fr. Un dossier d'ailleurs qui devrait nous occuper encore quelques jours, puisque Zinedine Zidane serait en embuscade si jamais Didier Deschamps venait à partir.
paraît-il. On va avoir des débats. Les Bleus éliminés, l'Euro, lui, se poursuit. Et l'issue du tournoi est particulièrement incertaine.
Oui, après les qualifications de l'Angleterre face à l'Allemagne, 2-0. On en parlait ce matin sur Europe 1. Et puis de l'Ukraine face à la Suède, 2-1 après prolongation à la dernière minute. Eh bien, le tableau des quarts de finale est connu avec Julien Froment, de grosses affiches au programme.
Oui, et quand on parle de choc, on parle bien évidemment de Belgique-Italie, une finale avant l'heure entre deux équipes qui auront été séduisantes en poule et réalistes en huitième de finale. Les Belges, privés de leur maître à jouer, Kevin De Bruyne, et de leur star, Eden Hazard, devront puiser dans leurs ressources pour éliminer une équipe d'Italie qui reste sur une incroyable série de 31 matchs sans défaite. Quart de finale, surprise entre le Danemark et la République tchèque. Quant à l'Espagne, 10 buts sur les deux derniers matchs, elle devra être à l'heure contre la Suisse, bourreau des Bleus. Enfin, l'Angleterre a une belle carte à jouer contre l'Ukraine qui aura laissé des plumes face à la Suède pour disputer le tout premier quart de finale de son histoire. Les matchs se disputeront respectivement à Munich, Bakou, Saint-Pétersbourg et Rome.
Voilà les matchs qui auront lieu vendredi et samedi. Merci Julien Froment, et on sera notamment vendredi soir à Munich pour cet alléchant Belgique-Italie. Vous venez, Mathieu ?
Je vous suis, vous décollez pour Munich quand ? Cet après-midi, demain ?
Demain.
Je vous rejoins. C'est à 18h vendredi.
On va se régaler.
Ce serait tellement bien de retourner dans les stades et tout ça. Jean-François Pérez qui nous fait vivre cet Euro bien sûr avec le service des sports. En attendant, pas de match ce soir. On se retrouve tout de même à 20h hein, sur Europe 1, le Europe 1 Football Club, autour de Lionel Rosso. Merci Jean-François.
Bonne journée.
Bon voyage.
Merci.
8h37. Dans un tout petit instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Oui, car à quelques jours des vacances, vous saurez tout sur le mal du transport. Car oui, des solutions existent. Il est possible de ne pas mettre du vomi partout dans la voiture.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h39 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À quelques jours des départs en vacances, vous nous donnez quelques conseils, si j'ose dire, essentiels pour lutter contre le mal des transports.
Oui, le mal de transport, c'est un trouble qui est lié aux déplacements qui vont provoquer une succession de symptômes avec des nausées et des vomissements. Alors ce mal de transport, il est dû à une discordance de messages entre les informations fournies par vos yeux et votre oreille qui est le centre de l'équilibre qui va en quelque sorte dysfonctionner de façon temporaire. Les enfants en souffrent un peu plus entre l'âge de 2 et 12 ans, puis ça s'améliore assez étrangement au moment de l'adolescence. À l'âge adulte, c'est plutôt les femmes qui sont touchées plus que les hommes, en particulier durant la grossesse ou même pendant le cycle menstruel, car il y aurait une participation hormonale dans ce phénomène. On constate aussi que les migraineux ont plus de risques d'en souffrir que les autres. Pour le reste, il peut survenir partout, que ce soit en voiture, en bateau ou même en avion.
Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour l'éviter ?
Alors quelques mesures simples. En voiture, l'idéal étant de mettre l'enfant vomisseur au milieu et de lui demander de garder la tête droite pour regarder la route. Il faut aussi éviter qu'il soit sur la tablette ou qu'il lise par exemple, car les yeux vont avoir l'impression d'être immobiles. Pourtant, votre oreille interne, elle va sentir les mouvements du véhicule et donc entraîner ce conflit des centres de l'équilibre, car les yeux doivent percevoir en permanence le mouvement ainsi que le déplacement. L'idéal est aussi de ne pas partir à jeun, mais d'éviter un repas trop copieux, ainsi que la consommation pour les adultes de café ou d'autres excitants. Et pour ceux qui vont prendre le train, je vous recommande de vous asseoir dans le sens de la marche. Enfin, pour les chanceux qui prendraient l'avion, choisissez une place au centre de l'appareil, là où les mouvements sont les plus faibles.
Alors, est-ce qu'il existe des médicaments efficaces ?
Oui, demandez conseil à votre médecin ou au pharmacien, mais le gingembre permet de lutter contre le mal des transports chez l'enfant de plus de 6 ans. Vous pouvez aussi essayer la menthe poivrée pour limiter les effets des nausées. En revanche, les antinauséeux classiques qu'on utilise par exemple en cas de gastro sont peu efficaces, mais pour ceux qui seraient plus sensibles au mal du transport, eh bien, il y a des traitements, des médicaments comme des antihistaminiques ou même des patchs qui peuvent se coller derrière l'oreille quelques heures avant le départ et à garder durant tout le voyage. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de garder sous le coude quelques sacs anti-vomi. C'est toujours plus agréable pour l'entourage de vomir dedans que d'en mettre partout dans la voiture.
N'est-ce pas ? Bon petit déj à tous, bien sûr, mais en même temps, on est tous concernés. Hein. On a tous soit vécu ça, soit des enfants. Bon, entre 15h et 16h, on vous retrouve, Jimmy, avec Mélanie Gomez.
Et on va parler de ceux qui ont la phobie de conduire et on va essayer de les guérir grâce aux jeux vidéo et plus particulièrement la thérapie par la réalité virtuelle.
Oui, alors après, sur les départs en vacances, il ne faut pas conduire comme dans les jeux vidéo non plus.
Non, vous avez raison, Mathieu.
Merci du conseil. Notre santé tous les matins, sans rendez-vous de 15h à 16h avec Mélanie Gomez. Merci, Jimmy. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour, Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est quelque part la suite de ce qu'on a pu évoquer hier avec Jimmy. Vous nous parlez ce matin des nouvelles avancées pour se protéger la peau des UV sans dégrader l'environnement grâce à une algue.
Oui, une algue rouge qui se pêche en France d'ailleurs sur la côte basque. Alors à la base, elle est utilisée pour confectionner un gélifiant pour l'agroalimentaire bien connu qui est l'agar-agar et qui permet de remplacer les gélifiants d'origine animale. D'où son nom car elle s'appelle aussi gélidium. Les pêcheurs de la baie de Saint-Jean-de-Luz en ramènent individuellement jusqu'à 1700 tonnes chaque année. Tout cela à destination des usines de transformation, mais l'agar-agar n'est pas la seule substance extraite. Cette algue rouge contient des molécules très intéressantes et désormais prisée par l'industrie pharmaceutique, notamment pour la fabrication de crèmes solaires écologiques.
Alors comment est-ce que l'algue rouge peut nous protéger des rayons nocifs du soleil ?
Eh bien parce qu'elle s'en protège déjà elle-même, figurez-vous. Cette algue rouge a la particularité d'être en semi-flottaison et capte ainsi les rayons du soleil essentiels à sa photosynthèse et donc à sa croissance. Mais tous les rayons ne sont pas utilisés dans ce processus naturel et le rayonnement ultraviolet lui est nuisible. Et donc tout comme nous, elle doit s'en prémunir. Sauf que l'algue, elle n'a pas les moyens vraiment de se réfugier à l'ombre lorsque le soleil cogne. Du coup, la nature a opté pour un stratagème et l'espèce a développé au cours de son évolution des molécules protectrices pour se protéger des effets néfastes des UV. Ce sont ces mêmes molécules qui sont extraites pour fabriquer de nouvelles crèmes de protection pour les humains, une alternative prometteuse quand on sait que la crème solaire est en partie responsable de la dégradation des milieux aquatiques.
Non, c'est vrai que c'est polluant pour les océans. Alors cette ressource, comme n'importe quelle autre d'ailleurs, peut s'épuiser si on entre dans une phase sévère d'industrialisation.
Ben oui, ben c'est déjà le cas. Hein. C'est le cas au Maroc et au Chili, ces pays qui ont quasiment épuisé toutes leurs réserves d'algues rouges. En revanche, je peux vous dire qu'il y a de bons exemples. En Tunisie, les algues rouges se cultivent et sont même bouturées. C'est très efficace. Pour 1 kg d'algues mises en culture, 10 kg de la plante aquatique sont récoltés seulement un mois et demi plus tard. Une opportunité d'emploi locaux, de pérennisation de la ressource et de réponse à un problème environnemental majeur permettant de protéger à la fois notre peau et les écosystèmes marins.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, tous les matins sur Europe 1. Il est 8h44 à présent, dans un instant, la revue de presse. Nicolas Canteloup et Julie, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Et oui, chers auditeurs. Les grandes vacances, c'est pour bientôt. C'est dans deux dodos.
Deux dodos.
Alors qu'on se remet, vous le savez, tout doucement de la défaite de l'euro.
Oui, enfin bon, ça va.
Et c'est vrai qu'on s'en remet pas vraiment tout à fait. Excusez-moi. Non, ça m'arrive jamais à l'antenne, mais là. Allez, soyons positifs. On va regarder vers les bonnes nouvelles. Je me reprends parce que je suis professionnel. L'info du jour, ce sont les. Allez, une vraie info. Une info forte. Il faut commencer par ça pour me reprendre. L'info du jour, ce sont les toilettes des gares qui seront gratuites dès l'année prochaine sur présentation du billet de train. Oui, mais écoutez, vu le prix d'un billet de train aujourd'hui, vous pourrez même y installer des douches, un jacuzzi et même un hammam. Allez, l'autre info, c'est l'Elysée. L'Elysée qui envisage une réforme des retraites express. Et les Gilets jaunes, de façon concomitante, qui envisagent des prises de rond-point express aussi. Et puis, l'autre info presse écrite, c'est Emmanuel Macron qui s'est exprimé dans le magazine Elle.
Ah oui,
et il a déclaré qu'il ne comptait pas changer de Premier ministre dans les prochains mois. Et il a également précisé que tous les matins, pour une peau claire et épurée, il utilisait de l'huile de jojoba. Oui, mais ça reste quand même une interview dans elle. Hein, pas, voilà. On garde ses fondamentaux.
Merci Mathieu. Emmanuel Macron, donc, qui envisage de pousser l'âge de la retraite à 64 ans avant la fin de son mandat. Monsieur le Président, bonjour. Alors, pourquoi vous vous attaquez à cette mesure impopulaire, faut bien le dire.
Pourquoi s'attaquer à cette mesure impopulaire? Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je m'attaque à cette mesure impopulaire pour une bonne raison, chère Julie Leclerc.
Quoi?
Parce qu'on est impopulaire. Vous n'avez pas peut-être suivi le résultat des régionales. Hein, on est super pas populaire. Alors écoutez, autant en profiter.
Oui, c'est vrai que les régionales ont été catastrophiques pour votre parti. Hein.
Écoutez, au premier tour, qu'au second, finalement, ça ne s'est pas si mal passé que cela pour La République En Marche.
Hein. Ah bon
écoutez, autant la semaine dernière, chez Laurent Cabrol, on avait pris une fessée générale, autant cette semaine, personne n'a paumé.
Ah, bon ? Ah bah oui, vous n'aviez plus de candidat.
Oui, c'est vrai. Mais je vous l'accorde. Je vous l'accorde, c'est vrai que ça aide. D'ailleurs, à ce titre, nous allons envoyer aucun athlète de La République En Marche aux JO de Tokyo. Comme ça, nous n'aurons aucune défaite plus.
C'est malin, oui.
Personne ne pourra dire que nous avons perdu.
Ben voilà. On a pu lire que le vote pourrait être déplacé en semaine parce que le dimanche, les Français n'ont pas envie d'aller voter. Mais c'est quoi ça ?
Non, mais sérieusement, attendez, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à foutre le dimanche, les Français ? Hein ? Le dimanche, on le sait tous, ils doivent se taper des réunions de famille avec des grands-mères qui les forcent à reprendre 8 fois de la purée, de céleri et du gigot trop cuit tout en les écoutant. Hein, franchement, et on écoute en plus Mémé faire la liste de toutes ses maladies le dimanche. Hein, et je parle pas des blagues du tonton raciste. Franchement, c'est un cadeau qu'on leur fait en maintenant les élections le dimanche. Le vote le dimanche, c'est un prétexte pour s'enfuir, pour quitter la table.
Tiens, pour finir, c'est bientôt les 1 an de Jean Castex à Matignon. Ah.
Oh la vache, oui. Merci beaucoup, Julie.
Quoi?
Vous faites bien de me le rappeler parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Un an déjà, oui. Un an, c'est quoi? C'est noces de coton, c'est ça?
Je crois que c'est ça, oui.
Oui, c'est vrai que gagner en 2022 avec Castex Premier ministre, c'est vrai que ça va être coton.
Oh, magnifique. Oh, bravo.
J'ai pas mieux.
Merci beaucoup.
Laurent Cabrol va trouver mieux, peut-être.
Emmanuel Macron qui envisage donc de pousser l'âge de la retraite à 64 ans avant la fin de son mandat. Bruno Le Maire, pourquoi la réforme des retraites est une priorité absolue ?
Mais bon sang de bois, mais parce qu'on n'a plus les moyens de les payer, les retraites.
Ah.
Hein, mais t'es marrante, toi, ma Julie. Pourquoi vous croyez qu'on a vacciné les vieux en priorité ?
Bah parce que c'était un groupe à risque.
Mais non ! C'est parce qu'ils aillent bosser jusqu'à 75 ans, allons ! Ouvre les yeux ! Ils commencent à nous courir sur le haricot aussi, les vioques. Hein, on se confine 3 fois de suite pour leur sauver la vie. Ça nous coûte un pognon de dingue. Hein, plus les retraites qui creusent la dette. Non, ça suffit. Ça coûte plus cher qu'une Ferrari, un vieux. Faut être réaliste. Flûte à la fin. Excusez-moi, j'étais grossier.
Oh la colère, monsieur le maire. À bientôt. C'est donc notre sujet du jour. Emmanuel Macron, qui veut avancer sur la réforme des retraites, hein. Une réaction, Philippe Martinez. Bonjour.
Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour. Au camarade Béliard. Hein, car je peux l'appeler camarade. Nous savons tous pourquoi, puisque... Il y a quelques 3 semaines, il a pris son adhésion. Bonjour, je ne sais pas, un hasard de calendrier peut-être. Bonjour au camarade Jimmy Mohamed et bonjour à monsieur Cabrol.
Alors Emmanuel Macron veut que sa dernière année de présidence soit utile. Il veut bosser jusqu'au bout, quoi.
Ouais, mais très bien. Bah, qu'il sache que nous aussi, les syndicats, on l'emmerdera jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à la 90e et même dans les arrêts de jeu s'il faut. Hein, s'il y a prolongation, qu'il se rassure, on sera là aussi.
Alors pour le président, il est indispensable pour l'équilibre des finances de repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Vous êtes contre, vous ?
Bien sûr que je suis contre, parce que à 64 ans, même Julie, on n'est plus en état de travailler. Faut être réaliste.
Oh là, attention là, dans le studio.
Excusez-moi, je m'inscris en faux, c'est pas très sympa. C'est pas vrai, on est très jeune à 64 ans, même plus que 64, hein, disons qu'on on acquiert une certaine maturité. Alors je le dis tout haut et solennellement, je t'emmerde moustache.
Non, mais attendez, monsieur Cabrol, je ne tiens pas à stigmatiser, en plus sur votre antenne, les gens de plus de 64 ans. Hein, je sais d'ailleurs que dans ce studio, Il y a plusieurs animateurs de qualité, bien sûr, qui n'ont pas attendu le coup de sifflet de l'arbitre. Enfin, qui n'ont plutôt pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre et qui ont oublié de rentrer au vestiaire à 64 ans. Mais bon, faut se mettre à la place des travailleurs. C'est des hommes et des femmes qui voyaient la ligne d'arrivée et on leur dit « Non, non, tu vas refaire encore 2 tours de stade. » Bah, excusez-moi, mais c'est terrible de rajouter 2 ans de boulot à des travailleurs. Bon, même si c'est vrai que dans certaines entreprises... c'est l'inverse qui se produit. Hein. Il y en a même, on envisage même parfois des départs à la retraite à 36, 37 ans. Hein. Camarade Béliard, vous voyez de quoi je veux parler.
Camarade Béliard.
J'ai mes trimestres ou pas?
En tout cas, vous êtes très remonté hein, contre cette retraite à 64 ans.
Non, bah, écoutez, on est très remonté. Attention, Madame Leclerc, arrêtez de stigmatiser. Ne nous faites pas passer pour des gens obtus. Hein. Nous, à la CGT, on est des gens ouverts. Hein, voilà. On veut dialoguer avec le président Macron, on veut dialoguer avec le patronat. Voilà.
Et à l'issue du dialogue, vous pourriez vous déclarer favorable à une retraite à 63 ans
hein? Ah ben non. À l'issue du dialogue, on dira non. Ah. Mais vous noterez, vous les journalistes, qu'on aura dialogué.
Eh bien, merci, camarade Martinez.
Voilà.
Xavier Bertrand a fait le tour des médias hein, après sa victoire au régional hier. Il a appelé à redresser notre pays. Bonjour, Laurent Wauquiez.
Oui. Bonjour madame. Il a dit qu'il voudrait redresser le pays, oui. L'agent d'assurance, Xavier Bertrand. Eh bien, il a parfaitement raison. Il faut redresser le pays, c'est une urgence.
Il a également appelé à une république des territoires.
Une république des territoires, il a dit l'agent d'assurance. Eh bien, il a parfaitement raison.
Et enfin, il a appelé Valérie Pécresse et vous, Laurent Wauquiez, à former une équipe autour de lui.
Ah. Eh bien, il a parfaitement tort. Pourquoi ? Ben écoutez, pourquoi ce serait à nous de former une équipe autour de lui et pas lui de faire une équipe autour de moi ? Franchement.
Il a comparé l'équipe de droite à l'équipe de France en ajoutant « Quand il y a une grande et belle équipe de France, elle peut l'emporter ».
Mais alors, mais c'est faux. Il dit de la merde. Comparer l'équipe de droite à l'équipe de France, franchement, en équipe de France, il y a des Noirs et des Arabes. Il n'y en a jamais. Ben oui, en équipe de France, il y a des Noirs et des Arabes. Il n'y en a jamais chez les Républicains. C'est franchement bien un agent d'assurance. Ouf. Il n'y connaît rien en politique.
Oui, c'est ça. Allez, si vous le dites. Merci, Laurent Wauquiez. Merci beaucoup. En tout cas, après les régionales, le duel annoncé pour la présidentielle a du plomb dans l'aile. On n'aura peut-être pas ce match entre La République En Marche et l'extrême droite.
Non mais vous faites rigoler. Je ne suis pas. Non mais écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord du tout.
Bonjour Éric Zemmour.
Oui,
il y avait longtemps.
Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Bonjour Monsieur Cabrol. Bonjour à Jimmy. Bonjour Jimmy. Et bonjour aux autres du sexe faible. Écoutez, je ne suis pas d'accord. Aucun sondeur n'a jamais dit que l'extrême droite serait au second tour. Excusez-moi.
Si tous les sondages annonçaient un duel Macron-Le Pen.
Ah bon? Ah, parce que, alors j'ai mal compris, parce qu'elle est d'extrême droite Marine Le Pen pour vous. Alors ça, première nouvelle, hein. Excusez-moi, mais ouvrez les yeux, c'est une bobo centriste qui parle d'ouvriers toute la journée et qui pense que l'islam peut cohabiter avec la République. Excusez-moi, mais ça ressemble plus à un duel entre Emmanuel Macron et Léon Trotsky. Hein.
Oula,
c'est vrai que j'exagère un peu à ce détail près que Trotsky, lui, il portait pas de robe et il n'aimait pas les chats. Ça, c'est vrai. Bon. C'est historique.
Et donc, vous pourriez vous présenter pour lui piquer son électorat. C'est ça que vous essayez de nous dire ?
Bah écoutez, c'est une hypothèse. Hein. J'y réfléchis, je consulte. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à droite, on attend autre chose qu'une bonne femme hein, qui présente au régional des candidats puceaux de 23 ans ou des mannequins homosexuels. Les Français, ils veulent quoi ? Ils veulent un De Gaulle. Hein. Ils veulent un Chirac, mais très, très, très à droite de la droite. Hein. Ils veulent un candidat qui soit un homme grand, fort, un homme viril, un homme exagérément musclé et un homme hétérosexuel. Hein. Bien sûr, vous l'avez reconnu.
Bah non, pas du tout, non.
Bah, enfin, vous l'avez dans vous, c'est moi. Marianne, c'est une évidence. Marianne a envie de moi. Hein. On va être bien 5 ans ensemble, vous croyez pas ?
Eh ben, Éric Zemmour.
Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. On salue Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas Canteloup. 8h57, Philippe Vandel est avec nous. Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler technique de son. On va recevoir un homme très rare à la radio. Il s'appelle André Kudelski. Son nom vous dit peut-être rien, mais il est pourtant le président de la marque Nagra.
Ah non, c'est vrai.
Nagra, l'enregistreur audio.
Il faut dire aux auditeurs. Les... Oui,
on va dire ce qu'était un Nagra. Ah, oui, c'est l'enregistreur audio compact, le premier qu'on pouvait balader partout et qui a fait des reportages incroyables. En gros.
Enfin, les plus anciens vous disent moins compact qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était lourd et c'était. Ah, oh, c'est génial.
Évidemment,
c'est
il génial. A révolutionné la manière de faire de la radio dans la guerre du Vietnam et c'est devenu l'un des outils favoris des espions. Le patron
aussi
sera avec nous. Exactement, avec le tout petit Nagra SN qu'on voit dans Mission Impossible.
L'année des 100 ans de la radio, là, il faut écouter ça attentivement, évidemment.
Au sommaire également, la chaîne d'info continue israélienne I24 News qui ouvre, et là aussi c'est un signe, un bureau à Dubaï. Et dans le même temps, elle signe un accord avec les Émirats Arabes Unis, fait marquant pour la diplomatie, parce que c'est une chaîne israélienne. Nous en parlons avec son PDG, c'est Franck Melloul. Et puis l'humoriste Donald Jacksman pour son spectacle Ensemble à l'Européen, absolument irrésistible. Et aussi, il a une tournée dans une sorte de minibus, ça s'appelle La Route des Vannes. Je ne sais pas si la tournée passe par Vannes.
Oui, il faudra lui demander. Mais bah, cela dit, moi je vais écouter attentivement le meilleur ami des journalistes radio, le Nagra bien sûr, dans Culture Média, à suivre de 9h-11h avec Philippe Vandel. Je vous retrouve demain matin en direct dès 7h. D'ici là, une bonne journée. Le monde aura changé, on va vous le raconter.